Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de YouTube qui renforce ses mesures anti-adblocker. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 12, on est quoi en octobre, 12 octobre 2023 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin? Est-ce que vous avez la forme? Salut Basti, salut Laurie, salut Jess, salut Nali et Eric au Japon, salut à toi, salut Alex, salut Alan, salut Caméléon, Poppy, Lily Pop, l'atelier de Sonia, salut Technis Avoir, salut The Drenaline, Dréaline, pardon. Garlic Snell, bonjour à toi. Comment vous allez bien ce matin? Si la modération m'indique un problème, docteur, il sera avéré, mais on ne va pas commenter effectivement les problèmes techniques. Ça peut venir de chez toi. Ça peut venir de chez toi. Quand vous avez d'ailleurs un problème, essayez de vérifier que ça ne vient pas de chez vous. Problème de son, problème d'image et tout. Lancez dans un navigateur pour voir. Avant, effectivement, d'en parler sur le chat, parce qu'après, tout le monde va se mettre à chercher des problèmes techniques. Et c'est le zbeul. Et après, j'arrive plus à lire ce que vous dites. Pour l'instant, la modération ne m'indique pas qu'il y a un problème technique. Salut, Mécano. Salut, salut. Ah bah oui, tu peux pas regarder les images du mug. Oui, tu es au Japon pour des raisons évidentes de forfait mobile. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être regarder les articles du jour, de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer vraiment par du petit article. Petit truc sur le bouton action. Que Apple va résoudre le bouton action qui est sur les iPhone 15 Pro. Je le rappelle, petit problème, il avait tendance à se déclencher un petit peu trop facilement dans la poche. Eh bien, Apple déploie une mise à jour. Donc ça, on en parlera rapidement. On parlera également un article. Alors, le premier article, il faut que j'oublie pas de citer les sources quand même. Nextbit.fr, donc pour le premier article. Deuxième article, un article de Courrier International. Alors, c'est un article payant. Hein. Nous, on est abonnés à Courrier International. Je précise pour ceux qui voudraient aller le lire de leur côté. Effectivement, ce qui se passe actuellement. La guerre au Moyen-Orient, avec notamment les finances, le Hamas qui a récolté des millions de crypto-monnaies et Binance, justement, gèle les comptes du Hamas. Donc, un article de Courrier International. On restera un petit peu sur le sujet avec un deuxième sujet. Vous avez peut-être suivi, ça s'est passé avant-hier soir, je crois, avec les attaques sur Israël. L'Union européenne veut un engagement d'Elon Musk pour combattre la désinformation sur X, Twitter, Twix, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, et c'est un article de 01net. On parlera également de Adobe. Adobe qui va lancer un système universel pour repérer les images faites par intelligence artificielle. Donc, c'est le petit logo que vous voyez ici. Et donc, on en parlera. C'est un article de Phone Android. Et nous terminerons par un article sur la répression de YouTube contre les adblockers qui alarment les internautes. Qu'est-ce que YouTube est en train de faire? Ça sera un article de Numérama. Et nous terminerons bien sûr en parlant de notre merveilleux sponsor Axonaut qu'on remercie de nous aider à vous proposer cette émission. Et ben voilà le sommaire, j'espère qu'il vous va, il n'y en a pas d'autre. Et on va commencer tout de suite effectivement avec le premier article. Premier article sur iOS 17.1, sachant que la version publique actuellement, elle est en 17.0.3. Moi je l'ai pas trop eu parce que c'est vrai que ma cover actuelle a tendance à bien protéger le bouton action de toute mauvaise manipulation, mais manifestement le bouton action avait tendance à se déclencher un petit peu trop facilement, accidentellement, notamment dans les poches. Et bien avec la troisième version bêta d'iOS qui sera la 17.1 qui a été envoyée cette semaine aux testeurs et aux développeurs, il y a maintenant une détection que l'iPhone est dans votre poche et du coup désactivera le bouton action. Donc il détectera qu'il est dans une poche ou dans un sac, et une pression longue, vous pourrez quand même l'activer dans votre poche. Parce qu'on peut se dire que certains raccourcis sont liés à certaines fonctions qu'on aurait envie de, mais il faudra faire une pression longue pour le déclencher s'il est dans votre sac ou dans votre poche. Donc voilà, c'est juste Apple qui est en train de régler un petit peu les petits problèmes. Décidément, c'est compliqué les débuts de l'iPhone 15, nous dit Mécano. Je pense que beaucoup de problèmes ont été montés en épingle. En fait, je suis pas d'accord avec toi. En fait, non. Je trouve que l'iPhone 15 a plutôt, il n'y a pas de gros gates, il n'y a pas de gros problèmes sur l'iPhone 15. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites parce que ça génère du clic. Et ça, donc, ça génère de l'argent. Il y a eu beaucoup trop tôt ce que j'estime être des fake news, parce que zéro recul entre les gens qui, 2 heures après avoir reçu leur iPhone, disent il chauffe trop ou il a pas de batterie, ou les gens qui appuient avec les 2 pouces à l'arrière en disant oh là là, le verre ça casse. Il y a eu beaucoup de recherches de faux problèmes, en fait. Voilà. Et plus cette année encore que les autres années. Et c'en est triste, mais on y reviendra sur d'autres sujets. Les réseaux sociaux, et notamment, effectivement, Twitter X, hein, Twix, a maintenant un business model qui va avoir tendance à récompenser les posts les plus alarmistes, les plus angoissants, les plus révoltants, ce qui conduit énormément de gens, et même des gens assez modérés autrefois, et même des journalistes, à aller chercher la phrase d'accroche qui va révolter le plus les gens. Et voilà, très gros problème sur l'iPhone 15. Donc ça donne une vision d'une sortie compliquée de l'iPhone. Tous les ans, c'est compliqué, hein, parce que Apple est un peu la cible à abattre pour tout le monde. Mais cette année, encore plus que d'habitude. Zéro recul, quoi. Zéro recul. Et j'avoue que vous verrez, j'ai écrit je suis en train d'écrire mon test complet déjà de l'iPhone 15, et puis je ferai mon test complet de l'iPhone 15 Pro après, mais je vais parler de ça, je vais parler du fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont faux, en fait, factuellement faux. La chauffe, oui, il y a eu un problème de chauffe, ça venait pas du hardware. Apple l'a adressé en 2 semaines. Voyons la pertinence des choses. Est-ce que ça vaut le coup de faire des vidéos entières sur des problèmes de chauffe d'un smartphone alors que c'est rectifié par une mise à jour 2 semaines après, quoi? Alors, qu'on informe Apple et qu'on dise il y a un problème, oui. Mais après, qu'on en fasse des vidéos de conclusion entière ou des tests, il y a maintenant, et ils sont inscrits dans YouTube, ils ne s'effaceront pas, des tests entiers de l'iPhone 15 disant qu'il a des problèmes de chauffe. Donc quand ils seront visionnés dans 1 an, 2 ans, la conclusion sera toujours que l'iPhone a des problèmes de chauffe. Il y a plein d'histoires comme ça sur les iPhones, mais sur plein d'autres choses aussi. En fait, des infos fausses sont devenues inscrites dans le marbre, dans les croyances populaires. Et c'est ça qui devient compliqué dans notre métier aussi. Hein. Les iPhones sont ralentis pour pouvoir vous vendre des iPhones. Ça, c'est un truc qui date d'il y a 7-8 ans presque. Non, peut-être pas 6 ans. Qui est beaucoup plus nuancé que ça. Mais la croyance populaire, c'est que Apple fait exprès de brider ses iPhones à chaque fois qu'il en sort un pour vous vendre le nouveau. Ça, c'est ce que tout le monde croit dans les dîners en ville. Voilà, et pareil, que les iPhones ne fonctionnent pas avec les câbles Android. Ben, j'entends des gens qui ne s'y connaissent pas en tech le dire. C'est devenu une réalité, en fait. Ce qui est faux. Ce qui est factuellement faux. Non, Apple n'a pas été condamné en justice. Ils ont été attaqués sur le sujet, mais ils n'ont pas été condamnés. Et je dirais qu'un des pires canaux de désinformation sur l'iPhone, hein, je reste sur l'iPhone, c'est TikTok. Hier soir, j'ai, en regardant TikTok pas longtemps, 3 TikTok disant que l'iPhone 15 avait des problèmes d'ondes qui grillaient le cerveau. Voilà. Donc... C'est des problèmes. Le problème, c'est que pour expliquer ce qui se passe vraiment, ça demande du temps, on n'en a plus, et on a besoin d'idées prémâchées, faciles à sortir et qui créent l'indignation, parce que sinon, une idée n'est pas écoutée si elle n'indigne pas. Et là, vous aurez bien compris que je parle de l'iPhone, mais en fait... La plupart des sujets aujourd'hui, politiques, de société, tout ça, subissent le même traitement en ce moment. Qui relaie ces infos? Ben nous, ben vous, ben eux. Voilà. Parce que le problème, c'est que ces infos, comme elles sont bien croustillantes, beaucoup de gens ont relayé l'iPhone 15 a des problèmes. Voilà, parce que t'as l'impression d'être important, parce que tu relais une information sans vérifier qu'elle est fausse ou vraie ou qu'il faut la nuancer, quoi. Donc voilà, la plupart des informations aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et même ailleurs, ne font pas appel à votre intelligence. Ils font appel à vos émotions. C'est pas la meilleure façon de diffuser, de partager des informations, à mon humble avis. L'émotionnel n'est jamais le siège de la raison. Mais après, je suis d'accord, hein, c'est beaucoup plus rigolo de parler des Samsung qui flambent et des problèmes que de parler de la réalité qui est un peu fade et un peu nuancée. Bon, on a passé beaucoup de temps, mais c'est intéressant, hein, qu'on parte sur ce genre de choses. On va passer effectivement aux 2 prochains articles. Alors, bien sûr, les prochains articles parlent de l'actualité récente. On vous demande, et moi-même, je me demande d'être modéré en opinion. On n'a pas à partager nos opinions sur le fond des problèmes ou sur ce qui se passe. On va se limiter effectivement au sujet tech, autour de ce qui se passe. Donc, ne le prenez pas mal si vous êtes modéré. On modère pas forcément parce que vous avez dit quelque chose de déplacé. La modération est aussi entraînée à enlever des messages qui vont générer du débat dans le chat. Donc, ne le prenez pas forcément personnellement si vous êtes modéré. C'est juste que, voilà, les modérateurs vont détecter que tel ou tel message va donner lieu à une discussion qu'on n'a pas à avoir sur le chat. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez un problème de modération, vous en parlez avec la modération. La pire chose à faire, c'est de commencer à gueuler sur le chat à propos parce que vous êtes fait modérer un message. Là, vous allez vous prendre beaucoup de modération. La modération se commente avec la modération en DM. Voilà. Donc, de quoi on va parler? C'est un article de Courrier International. C'est effectivement Binance qui a bloqué un certain nombre de comptes de crypto-actifs. Ils les ont bloqués mardi 10 octobre, des comptes qui sont liés au Hamas. Les États-Unis et Israël tentent d'interdire tout accès aux transactions cryptées aux terroristes du Hamas avec le Hezbollah et le djihad islamique palestinien. Ils ont levé plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie depuis 2021, affirme le Wall Street Journal. Après l'ampleur de l'attaque du Hamas le 7 octobre contre Israël, se pose la question, et vous l'avez probablement entendu si vous regardez les nouvelles ou que vous vous informez, beaucoup se demandent comment cette opération a été financée. C'est une opération quand même de grande envergure. Eh bien, d'après le Wall Street Journal, c'est essentiellement les crypto-monnaies qui ont permis le financement. Le portefeuille de crypto-monnaies lié au djihad islamique palestinien par les autorités israéliennes. Oui, donc c'est les autorités israéliennes qui lient effectivement ces portefeuilles de crypto-monnaies. On recueille 93 millions de dollars, 88 millions d'euros, entre août 2021 et juin 2023, selon Elliptic, firme spécialisée dans l'analyse de la blockchain. Et le Hamas a occupé environ 41 millions de dollars sur la même période. Ces transactions en crypto-monnaie montrent comment les États-Unis et Israël ont eu du mal à couper l'accès à ces groupes à des financements étrangers. Ces montants expliquent comment le Hamas et le djihad islamique palestinien ont pu amasser des armes et d'autres équipements militaires au nez à la barbe du gouvernement israélien. La police israélienne a expliqué mardi 10 octobre qu'elle gelait d'autres comptes en crypto-monnaie utilisés par le Hamas pour appeler aux dons sur les réseaux sociaux. Le ministère des Finances des États-Unis a reconnu l'an dernier que les failles dans les contrôles de cybercriminalité financière sur ces bourses pouvaient permettre aux groupes terroristes de les utiliser à mauvais escient, rappelle le quotidien américain. Daesh, comme Al-Qaïda, ont aussi reçu des dons en crypto-monnaie. En août, le bureau de contre-terrorisme israélien avait demandé la saisie de 67 comptes sur Binance. La première bourse en crypto-monnaie est sous le coup d'une enquête du ministère de la Justice américain pour blanchiment d'argent. Un porte-parole de Binance a expliqué mardi que Binance travaillait en temps réel 24 heures sur 24 pour soutenir les efforts de lutte contre le financement du terrorisme et coopérer avec les autorités pour geler les comptes en question. Donc en fait, c'est un peu la nouveauté dans ce qui se passe actuellement. Jusqu'ici, et la caméra est un petit peu tordue. Attendez, j'essaie de rectifier. Ah, merde! Eh ben voilà, j'ai fait la boulette. La boulette est faite. Oh là là, merde. J'ai complètement tordu la caméra. Yep. Hop. Comment c'est là? Un petit peu mieux. Hein, on va continuer comme ça. Ouais, on se limite un peu hein, sur les jeux de mots, le sujet. Il y a, pensez toujours à la sensibilité des autres et pas à la vôtre avant de poster sur le sujet. Voilà. Pensez aux autres, en fait, avant de poster. C'est une bonne... elle est un peu trop haute, la caméra. Hop, on va la baisser un tout petit peu. Je suis retordu, mais je vais arrêter de la toucher. Je ferai ça plus tard. En fait, voilà, beaucoup... Dans ce type de conflit, on cherchait souvent, et ça a été le cas là, qui a financé ces opérations. Ces opérations coûtent beaucoup d'argent et doivent être financées. Et que effectivement, on a beaucoup vu, il y a eu beaucoup de supputations sur quels étaient les financements. Ben, en fait, la vraie nouveauté au niveau tech, c'est que il y a un financement direct par des appels aux dons sur des cryptos. Les cryptos, bah, entre 2021 et 2023, ont beaucoup augmenté. Je suis tordu, mais je vais arrêter de la toucher. Oui, et je continue de la toucher, ça m'obsède. On fera ça peut-être après l'article. Ça, c'est effectivement une grosse nouveauté. C'est qu'en fait, ces groupes terroristes arrivent à se financer relativement solo, en fait. Et c'est pas des petites sommes, comme le dit l'article. C'est des millions et des millions de dollars qu'ils arrivent à financer. Et ça explique un petit peu, même si je vais faire attention en m'aventurant là-dedans, mais ça explique un petit peu aussi que la guerre se mène au niveau des opinions, pas uniquement dans ce qui est classique, hein, que les opinions publiques ont énormément d'importance dans les conflits de notre époque, mais que c'est aussi en attisant les réseaux sociaux une manière de se financer. C'est-à-dire qu'en incitant les gens à avoir des partis pris forts dans ces conflits, des partis pris tranchés, on va dire, dans ces conflits, on va stimuler, en fait, le don et le financement direct. Donc, ça explique pas tout, mais ça peut donner une lecture sur le pourquoi du comment et pourquoi aujourd'hui on va essayer vraiment d'attiser les braises au maximum sur les réseaux sociaux, quoi. Y a-t-il un moyen de contrôler les cryptos ? Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Si la Corée du Nord se finance avec cette cybercriminalité, ils peuvent pas aussi faire en hackant des entreprises. Bah, en fait, le financement en jouant sur les fluctuations des crypto-monnaies est beaucoup plus facile que de faire du hack, qui peut être compliqué et onéreux. Bah, une bonne partie de ces dons, Yves, viennent de particuliers qui vont se rallier à telle ou telle cause ou telle idée et la soutenir financièrement. Les paiements se font souvent en crypto. Et à partir de là, bah, tu as des gros porte-monnaies crypto qui sont créés et tu joues sur les fluctuations. Alors, je ne sais pas si l'avenir des cryptos va permettre un financement aussi facile, mais entre 2021 et aujourd'hui, il y a eu des telles progressions des cryptos qu'on imagine bien que des portefeuilles moyens sont devenus des sources de financement énormes. Oui, c'est ce que je disais, Yves, en début d'article. En fait, la nouvelle composante qu'amène la technologie, c'est que avant, c'était des États, souvent, qui finançaient de manière plus ou moins transparente tel ou tel groupe. Aujourd'hui, c'est des individus aussi qui financent. Et grâce à leurs finances, qui permettent une certaine spéculation, une spéculation relativement opaque et qui permettent le financement, en fait. Oui, il y a probablement aussi des États. Je n'ai jamais dit non plus que les États n'avaient rien à voir là-dedans. Mais quand même, ça change la donne. Avant, un groupe terroriste ne pouvait virtuellement être financé que par des États ou un milliardaire, quoi. Il suffit de faire plein de petits dons pour des grosses sommes. Ouais, tout à fait. Mais bon, on voit quand même que s'ils arrivent à geler 67 comptes sur Binance, c'est pas non plus le Far West complet. Désolé, hein, mais j'arrive pas à rectifier l'assiette de cette caméra. Est-ce que c'est satisfaisant ? C'est mieux. Allez, on part comme ça. On voit que c'est pas impossible non plus. Et que, de toute façon, vu que ça pose un gros problème, il va y avoir probablement de plus en plus de mesures là-dessus. Hein. Chacun ses petites manies. Oui, moi, voilà, une caméra. Et j'avoue que Marion et Guillaume étaient tordus hier, légèrement, et ça m'a trigger. J'aurais dû prendre le temps ce matin de régler la caméra. Étrange de ne pas utiliser des wallets physiques. Si tu peux développer. Bon, voilà. On enchaîne un peu sans transition, mais c'est quand même lié, effectivement, à un article de 01net. Alors, c'est un article d'hier. J'ai pas checké ce matin s'il y avait eu des nouveaux rebondissements. Mais qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Les réseaux sociaux ont toujours eu une difficulté, c'est de modérer la désinformation durant des événements tragiques, comme c'est le cas actuellement suite aux attaques du Hamas sur Israël. Mais le laisser-faire d'Elon Musk et ses positions ambiguës, Marion vous en a parlé mardi, hein, effectivement, Elon Musk a même promu des groupes de désinformation. Il a promu des tweets qui étaient des tweets de désinformation signalés comme tels par des communautés de fact-checkers bénévoles, eh bien, ça pourrait bien lui jouer des tours. Et effectivement, il y a eu une réaction. Thierry Breton en tête, mais Thierry Breton représente effectivement les services de contrôle de l'Union européenne sur le sujet, qui a expliqué avoir des indications que la plateforme X est utilisée pour disséminer du contenu illégal et de la désinformation dans l'Union européenne. Le commissaire européen du marché intérieur, donc Thierry Breton, rappelle que Twitter doit supprimer les contenus signalés par l'Union européenne comme illicites en temps et en heure. Nous, et là, on le cite, « Nous avons de sources qualifiées des rapports concernant les contenus potentiellement illégaux qui circulent sur votre service malgré les signalements des autorités compétentes. » Thierry Breton rapporte que des médias et des organisations de la société civile ont signalé des instances d'images fausses et manipulées, comme des images d'anciens conflits armés sans rapport ou des séquences militaires provenant de jeux vidéo, notamment Arma 3, si je me trompe pas. Il invite Elon Musk à s'assurer urgemment que les systèmes de modération sont effectifs. Enfin, le commissaire donne 24 heures au patron de Twitter pour lui adresser une réponse prompte, précise et complète à sa requête et menace d'une enquête qui pourrait aboutir à une amende salée, 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Ce n'est pas la première fois que Twitter est ciblé par l'Union européenne sur la question de la désinformation, mais Elon Musk s'en soucie-t-il vraiment ? Gros point d'interrogation. L'équipe en charge de la sécurité de la plateforme, dont les effectifs ont été décimés suite à la prise de contrôle d'Elon Musk, assure pourtant que tous les efforts sont faits pour contrôler le déferlement de désinformation sur la plateforme. Elle rappelle que durant le week-end, ce sont plus de 50 millions de tweets qui ont été postés concernant le conflit. Donc ils sont en train de dire qu'ils sont débordés en fait. Si on lit correctement la phrase, ils disent qu'ils sont... débordés. Il a aussi été décidé de laisser passer des contenus insoutenables, et ça c'est une décision de Twitter, qui a décidé de laisser passer des contenus insoutenables, car il est dans l'intérêt du public de comprendre ce qui se passe en temps réel. Des mesures ont été prises concernant des dizaines de milliers de publications partageant des contenus graphiques, des discours violents et des comportements haineux selon l'équipe. Des centaines de comptes ont également été supprimés. Alors, il y a eu une mise à jour hier de l'article à 17h. Thierry Breton a envoyé un courrier similaire à Mark Zuckerberg, le patron de Meta, pour lui faire part de ses préoccupations concernant la prolifération de désinformation sur Facebook et Instagram. Il donne également 24 heures pour obtenir une réponse sur les mesures prises afin d'endiguer le flot de fausses informations. Ouais, ils sont débordés parce qu'ils sont plus assez nombreux. Twitter vient de répondre à l'Union européenne sur le X officiel, sur le compte officiel. Alors, écoutez, je vais découvrir ça en direct. Où est-ce qu'il est le compte X ? What's happening ? Je ne vois pas leur réponse pour l'instant. C'est dans la modération, quelqu'un a la réponse officielle. Je ne vois pas. Je ne vois pas la réponse officielle de X. Ah, c'est Linda, la CEO, qui aurait répondu. Attends, comment elle s'appelle déjà ? Linda. C'est quoi son nom de famille déjà ? Si quelqu'un peut MP le lien de ce tweet à la modération pour qu'on me fasse passer l'information. Musk a défié André Breton sur Twitter, oui, on n'en attendait pas moins. « D'accord, bah attendez, la modération va m'envoyer. Yep. Hop, j'ouvre le lien. Donc effectivement, X News Daily, la réponse officielle de X... Oh là, c'est long à lire. Lindaya X responded to Thierry Breton, letter detailing our work on a response on the terrorist attack en Israël. Bah, on va mettre le lien hein, pour que vous puissiez lire. Moi, là, c'est trop long pour que je puisse lire en direct. On va voir, hein, peut-être qu'ils ont une réponse. Moi, je peux vous parler quand même de mon expérience sur X, parce que même si j'ai pris la décision de ne pas y traîner trop pour ma santé mentale, je n'ai jamais vu, et pourtant, hein, Twitter, je connais bien depuis ses débuts, et des guerres et des conflits, on en a vécu sur Twitter. J'ai jamais vu autant de fake news en 48 heures. C'est effroyable. En fait, il n'y a même plus de vraies news. En tout cas, dans mes flux, il n'y a même plus, je ne vois même plus. Si je me limite à regarder le flux que me propose Twitter, il n'y a même plus de choses fiables, en fait. Il n'y a plus que de la désinformation, de l'outrance, des prises à partie. Il n'y a que ça qui remonte. Alors oui, je vois que les équipes de X essayent de modérer. De temps en temps, il y a une vidéo où en dessous, je vois ce contenu a été signalé comme non véridique. Ça, c'était une explosion d'un entrepôt au Liban il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir. Mais pour une image qui a été modérée, elle a été repartagée 20 millions de fois. Et je pense que là, bon, je lirai à tête reposée effectivement la réponse de X et on en reparlera peut-être. Je pense que là, quand même, Twitter, même si je sais qu'Elon Musk ne le fera pas, mais peut-être la nouvelle CEO, a quand même de sérieuses questions à se poser sur leur fonctionnement actuel qui encourage la création de fake news. C'est ça le problème, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'iPhone 15. Le business model et les incitations financières incitent aujourd'hui à créer des comptes qui publient en masse des fake news bien croustillantes, bien révoltantes, pour gagner de plus en plus d'argent. Jusque-là, le clic, ça fait du fric, ça a toujours existé, mais c'était un peu par rebond. Là, c'est direct. Plus votre tweet est commenté, relayé, ou plus vous créez l'indignation sur votre poste, plus vous gagnez d'argent. Et là, il y a quand même un problème fondamental de fonctionnement, en fait. Et là, je parle spécifiquement de Twitter. Il y a plein de problèmes de désinformation sur tous les réseaux sociaux. De toute façon, le moulin de la désinformation tourne à plein vent en ce moment sur tous les réseaux sociaux. C'est le seul conseil que je peux vous donner. C'est pas inintéressant en soi si vous regardez les réseaux sociaux en utilisant le peigne mental que vous êtes en train d'observer un phénomène historique de désinformation, mais rien n'est fiable sur les réseaux sociaux. Ne croyez en rien sur les réseaux sociaux en ce moment, encore pire que d'habitude. Vous devez appliquer un scepticisme absolu, surtout quand une information va dans le sens de votre opinion. Parce qu'aujourd'hui, ces moulins de la désinformation ne font que propager des choses avec lesquelles vous allez être d'accord et que vous allez avoir envie de relayer. Parce que on essaye de vous faire rentrer de force dans une guerre de tranchées d'opinions où vous devez avoir des opinions tranchées et prendre parti de force. On est, en tout cas, les tentatives de beaucoup sur les réseaux sociaux sont du kidnapping mental, j'ose dire le terme, des opinions publiques. Que ça soit TikTok, que ça soit Instagram, et parfois c'est du soft power, hein, ça se voit à peine. Hein. Donc aujourd'hui, moi, mes conseils, si vous sentez que votre santé mentale en prend un coup, et c'est complètement normal, hein, moi-même, hein, je suis très déstabilisé, éloignez-vous des réseaux sociaux, sauf si vous arrivez à les regarder avec, on va dire, des lunettes mentales, disant « je regarde ça comme un phénomène », donc en résistance, ne relayez rien. C'est un peu le tweet que j'ai fait l'autre soir. J'ai dit « ne relayez rien, tout est faux ». Et en relayant, vous êtes complice de la désinformation. Et il y a eu effectivement... et c'est très dur hein, parfois de résister à relayer parce que quand quelque chose de bien scandaleux est publié, on a envie de dire bah tu vois ça mon gars, ça tu vois là ce qui vient de se passer, bah ça va te clouer le bec à toi là qui à la machine à café ce matin me soutenait une opinion différente, et ben je vais te clouer le bec, je vais retweeter, je vais reposter ça qui a l'air d'être des faits, mais c'est pas des faits en fait. Donc ne relayez rien là en ce moment, ne relayez rien. Et alors je vais pas vous donner une liste parce que une liste est déjà une opinion de site, mais je vous invite à chercher dès ce matin pour ceux qui l'ont pas fait des sites de fact-checking. Il y a des sites aussi qui testent les sites de fact-checking pour donner les niveaux de fiabilité des sites de fact-checking. Moi, je sais que je regarde beaucoup Info Intox qu'il y a sur France 24. Je vous donne un truc. Je trouve qu'ils font un très bon boulot en ce moment en reprenant des images qui circulent sur les réseaux et qui font un vrai travail profond d'analyse de provenance des images. Et en vrai, je pense que dans les jours, semaines, voire mois qui suivent, je ne lirai rien sans lire énormément de sites de fact-checking et plusieurs, bien sûr, ne pas me limiter à un seul. Ouais, il y a vrai ou faux sur France Info aussi. Bah, de toute façon, comme je l'ai tweeté, c'est pas pour faire mon pompeux. Je n'ai pas cité d'où venait cette citation parce que c'est une citation apocryphe. C'est-à-dire qu'elle est attribuée à quelqu'un, mais en fait, c'est pas lui qui l'aurait dit. C'est vrai, la première victime dans toutes les guerres, c'est toujours la vérité. Donc, prenez du recul énormément en ce moment. Ne vous laissez pas kidnapper votre pensée. Beaucoup vous disent aujourd'hui qu'il n'est plus temps d'avoir des pensées nuancées, que le « oui, mais » est dangereux et ce genre de choses. Non, vous avez le droit d'être nuancé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord à 100% avec telle ou telle chose. On essaye aujourd'hui de vous pousser à avoir des opinions très fortes sur certaines choses et à vous positionner. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Vous avez le droit, effectivement, de ne pas avoir d'avis. Vous avez le droit de réserver votre avis. Vous avez le droit de ne pas donner votre avis. Là, le nouveau truc, c'est de prendre à partie tous les influenceurs pour leur demander de se positionner sur le sujet. Ben non, en fait. Ah oui, la vérité n'est pas sexy. Non, non, mais c'est clair, c'est ça le problème. C'est que, en fait, la vérité fait un très mauvais post sur les réseaux sociaux. La vérité fait une très mauvaise vignette YouTube. La vérité fait un très mauvais titre de presse. la vérité est toujours nuancée et fade. Voilà. Donc, vous faites pas... Oui, les guerres se mènent sur les opinions publiques, et celle-ci, très particulièrement. Hein, elle est plus vieille. Ce conflit est plus vieux que moi, pour vous dire comme il est vieux. Il est extrêmement complexe. Les viewers ici sont peut-être plus intelligents que tu imagines. Mais bien sûr, c'est pour ça que je prends le temps aussi d'en parler. Mais tu sais, à la limite, Plobel, je comprends ce que tu veux dire. Parfois, avec mes grandes phrases, je comprends que certains d'entre vous, ça doit les énerver un peu, genre « ça va Jérôme, ton côté perd la morale à enfoncer des portes ouvertes et à nous donner des citations ». Et il y a quelque temps, tu vois, je m'aperçois quand même que à mon tout petit niveau, hein, après je suis extrêmement modeste, mais bah, le brainwashing a été tel sur certains sujets que il y a certains d'entre vous, oui, qui sont un peu paumés, quoi. Donc j'essaye de pas être trop condescendant, mais c'est évident. Qu'on est un peu condescendant quand on a ce genre de discours. Et je comprends que ça peut en irriter certains. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a la meilleure communauté du monde. Ça, c'est un fait. Après, on n'a pas non plus une communauté qui est 100% intelligente, comme toute communauté, et qu'elle est disparate aussi. Que ça soit même au niveau du niveau d'éducation, du CSP, niveau socio-professionnel, on est disparates, et tant mieux, nous sommes une communauté complexe et diverse. Mais voyez, un peu comme la vidéo qu'on a faite, n'achetez pas l'iPhone 15. Je peux tout à fait comprendre que certains, ça les énerve, ce genre de vidéo, parce que, en gros, dans cette vidéo, certains d'entre vous ont déjà fait ces raisonnements-là. Mais pas tous. On peut faire un sondage pour savoir qui est intelligent ou pas. Allez, on va faire un sondage. Êtes-vous intelligent ? Alors, ils sont où les sondages ? Non, non, mais moi je le fais, hein. Pour alléger un peu l'atmosphère, je comprends que les sujets de ce matin sont un peu lourds. On va faire un sondage. Merde, comment on écrit « êtes-vous » en orthographe ? Putain, je suis toujours mal avec ce truc. Merde, « êtes-vous » Je suis nul en orthographe. « Êtes-vous » Comment on écrit « êtes-vous intelligent » ?« Êtes-non » Ah putain. Modération, aidez-moi, orthographe. êtes-vous, merci. Merci. Oh, je ne mets pas les accents, tout le monde s'en fout des accents. Il est où le chapeau chinois là? Déjà, le mec qui fait le sondage, on a des doutes. Hein. Ah, il y a un tiret. Ah, oh, fuck le tiret. Non, je veux pas être tirétophobe. Mais il est où le tiret sur ce clavier ? Oh, merde. Ok, c'est bon, j'en suis à êtes-vous. Intelligent. Oui. Non. Tu peux répéter la question. Ah merde, c'est trop long. Tu peux répéter, je vais mettre juste. Répéter et la réponse D. Ça, vieille ref. Hop. Donc, c'est la première fois hein, que c'est fait en direct. que c'est fait en direct effectivement sur une chaîne Twitch. Un influenceur demande à sa communauté si elle est intelligente ou pas. On va le savoir tout de suite hein, en direct sur les résultats. Pour l'instant, nous n'avons que 17% de gens intelligents, 33% de gens bêtes, 12% qui demandent de répéter les questions et nous avons une grande majorité qui répond la réponse D. Êtes-vous intelligent? La réponse D, effectivement. Faut voir. Ah, ça y est, alors on a la team. Il faudrait nuancer les sondages. Mais non, non. Faut voir, ça dépend pour qui. Mais de quelle intelligence parle-t-on? Parle-t-on de l'intelligence émotionnelle? Je trouve pas le sondage. Excuse-moi. Je sais que certains d'entre vous voient pas les sondages, mais... C'est pas faux. C'est quoi la bonne réponse? Je peux copier. C'est celui qui dit qui est. La réponse D étant la seule vraie réponse, car c'est vraiment la réponse D. Vous êtes vraiment intelligent. Oleg qui essaye d'orienter les votes. Voyez. Le militantisme. Hein? On vous voit venir. Bon, alors, résultat des courses, on a bientôt fini le sondage. Est-ce que la communauté Naotech est intelligente? À 19%, oui. Pas intelligente à 21%. Nous avons quand même 13% qui demandent de répéter la question. Et la large majorité répond la réponse D. Voilà. Pour moi, la réponse est fausse. Recompte des votes. Mais bon, au moins, voilà, on sait un peu à quoi s'en tenir. Je connais un streamer qui défend l'intelligence. Moi aussi. Stop the count. On a gagné quoi? Énormément de gratitude. Moi, je dirais personne n'est pas intelligent. Faudrait voir le niveau d'intelligence, effectivement. Le vote a été falsifié. Ouais, non, mais je pense qu'il y a effectivement... Le vote n'est pas très correct. Hein. On est un... Oh, c'est joli. Un chat qui se mouille pas trop. Chat échaudé craint l'eau froide. C'était quoi la bonne réponse? La tienne. Voilà. Hein, on est toujours le con de quelqu'un. C'est la seule bonne réponse à tout. 49-3, on est tous un télo. Allez hop. Est-ce qu'on a tenu compte de mon vote par courrier? Et les Outre-mer, là, est-ce qu'on a eu vos votes? Bref, merci. En tout cas, vous êtes une communauté formidable qui permet de terminer un sujet hautement compliqué. Par une petite touche d'humour et de légèreté. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Que vous soyez intelligent ou pas, vous restez la meilleure communauté de France et de Navarre. Et là, j'en ai certains qui disent, mais tu serais pas un peu naravophobe, hein, la Navarre. Mais la Navarre n'est plus française, Jérôme. C'est où la Navarre? C'est en Espagne, si je me trompe pas. Mais à une époque, c'était la France. D'où l'expression « France et de Navarre ». Maintenant, on dit « de France et de Bretagne ». Non, Jérôme, ne les trigger pas sur les régions. Règle numéro 1 pour apaiser un chat, ne commence pas à parler des régions. Hi, Cozy. You're welcome to stay and learn French. It's maybe not the best place to learn French, but... c'est à Navarre moins le quart, ouais. De toute façon, vive le Berry libre. Aïe, 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 Fonfon qui sort les drapeaux, ça y est, ça y est. Ça va partir en défilé. Votre région est la meilleure région de France. La vôtre, c'est la meilleure région de France. C'est mon avis. La Navarre, c'est pas une série policière. Et le fromage que vous préférez est le meilleur fromage de France, ou de tous les fromages. Voilà. Celui que vous aimez, c'est le meilleur fromage. Et la manière que vous avez de dire qu'une viennoiserie où il y a du chocolat dedans, comment vous l'appelez, eh ben vous avez raison de l'appeler comme ça. Je suis suisse. Je ne prends aucune opinion. J'aime bien ce streamer qui dit les termes. Exactement. Mes opinions sont comme ça. Le fromage que vous aimez, c'est le meilleur des fromages. Voilà. Et vous avez le droit de couper le fromage comme vous voulez. Effectivement. Non, il y a une différence entre Suisse et Normand. Normand, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Le Normand a toutes les opinions. Le Suisse en a aucune. Aïe, 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 ça y est, ça y est, ça y est dans la sauce. Ah, j'avais évité. Non, en plus, oui, la vérité géopolitique, c'est que la Suisse... La Suisse a des opinions. Et oui, vous avez le droit de manger des raclettes en été. Je ne m'oppose plus à la raclette d'été. Ah non, 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 non. Le lait dans les céréales, désolé, mais là, non, je ne peux pas être consensuel sur des sujets comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Hein, ceux qui mettent du lait avant les céréales, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. On est dans la tech, vaguement, plus beaucoup là. Allez, on continue parce qu'il est 8h52. Oh, ça va, ça va, ça va. On va parler d'un autre sujet, mais qui est important aussi, hein, qui est un peu relié. Là, j'ai un peu fait un mug, les sujets sont liés les uns aux autres, c'est magnifique. Sur Adobe, comme vous voulez le prononcer, hein, Adobe, lance un symbole universel pour repérer les images faites par IA. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup hein, en ce moment, donc je vous fais l'article et après on en parle. Adobe veut de la transparence et créer une icône que la firme souhaite voir chez le plus grand nombre. Son but, montrer clairement si une photo a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle ou non, entre autres. Depuis l'arrivée de l'IA générative, il est de plus en plus difficile de savoir si une photo est vraie ou non, tant il est aisé de produire à peu près tout ce qu'on veut en quelques clics. Chacun y va de son idée pour identifier facilement ce type de cliché. Google utilise le filigrane invisible SynthID, par exemple. Le problème, c'est que la multiplication de ces initiatives complexifie un peu la tâche. Le mieux serait qu'il en existe un seul label, utilisé par tout le monde. Adobe a justement cette idée en tête et dévoile le logo CR pour Content Credential. CC était déjà pris par Creative Commons. Le nouveau label a été développé par plusieurs entreprises membres du groupe Coalition for Content Provenance and Authenticity. Attends, c'est un mot que j'ai du mal à dire en anglais. Dont Adobe et Microsoft font partie. Donc le logo, hein, le voici, c'est ce logo CR. Rien à dire sur le logo, hein. On est dans du label, on va pas passer 3 heures sur le choix de la police de caractère. Lorsque ce logo est apposé à une image, vous pouvez cliquer sur l'icône pour afficher plusieurs informations. Qui la possède? Quand elle a été créée? Est-ce qu'elle a été faite avec une IA? Si oui, laquelle? Bien sûr, tous ces éléments sont inscrits dans les métadonnées. Il ne sert donc à rien d'effacer l'icône de la photo pour empêcher d'accéder aux infos. Le Content Credential peut même enregistrer des versions précédentes du fichier consultable via l'outil Verify proposé par le C2PA. L'idée est la bienvenue, mais elle ne sera réellement efficace que si la majorité des acteurs jouent le jeu en l'adoptant. Microsoft va renoncer à son système maison pour le faire, mais pas sûr que Google, entre autres, en fasse de même. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Je pense que certains d'entre vous vont dire oui, mais rien n'empêche d'enlever le logo. Je crée mon image avec Midjourney et j'enlève. Alors peut-être voilà, imaginons Midjourney ou un logiciel Adobe avec de l'intelligence générative me génère une image et met le label de force en fait sur l'image. Donc vous allez dire bah, qu'est-ce qui m'empêche d'effacer le label et les métadonnées, parce que les métadonnées peuvent s'effacer. L'article dit c'est inscrit dans les métadonnées, mais il y a des logiciels pour effacer les métadonnées. Oui, mais en fait, raisonnez à l'envers. Si vous avez un esprit sain et que ce type de label existe, vous ne croirez aucune image qui ne porte pas ce label. Mais bah, vous verrez qu'il y a un problème dans mon raisonnement et on va y venir. Donc en gros, si vous voyez une image et qu'elle n'a pas ce label, vous pourrez vous dire justement que l'image a été générée et dissimulée. En fait, un label peut fonctionner aussi à l'envers. Ceux qui ne l'ont pas vont éveiller un scepticisme en fait. Donc ça peut marcher comme ça. Le problème, et c'est là où moi je vois un gros problème, en fait, là où on a vraiment besoin d'un label, c'est pas tellement pour identifier les images fausses, à mon avis. On a plus besoin d'un label pour identifier les images vraies, et notamment, et on le voit bien en ce moment, des images qui viendraient vraiment du terrain. Le nombre d'images fausses que j'ai vu passer ces 24 dernières heures, et qui n'étaient même pas de l'IA, hein, qui étaient juste des images détournées, même certaines, c'était juste du recadrage pour faire flancher une opinion. Il y avait des images d'incendie ou de feux d'artifice recadrées pour vous faire croire que c'était des images du conflit et que tel ou tel endroit était en train de brûler. Donc moi, je serais plus pour... Alors, j'ai rien contre hein, leur label CR. Ça permettrait... Moi, par exemple, c'est ce que je disais, la plupart de nos images de vignettes aujourd'hui contiennent des éléments visuels qui sont générés par de l'intelligence artificielle. Je n'aurais aucun problème à mettre ce logo CR sur nos vignettes YouTube. Et pourtant, dans nos vignettes YouTube, il n'y a pas de métadonnées. Hein. Voilà. Mais je ne pense que ça ne marchera que si on arrive à mettre au point un label image vrai ou VP, Verified Picture, qui lui, avec probablement un système de blockchain, serait infalsifiable, impossible à reproduire, en tout cas un maximum sécurisé, qui permettrait de voir l'histoire d'une image, de la prise de vue, de son editing dans un logiciel de retouche d'image, d'où elle a été publiée, et qu'on puisse, grâce à la blockchain, suivre complètement le parcours d'une image en cliquant sur un endroit. Ça, c'est... Tant qu'il n'y aura pas ça, pour moi, toute image est fausse de base. Maintenant, tout ce que je vois est faux. vraiment, et ça fait déjà plusieurs mois que je m'applique cette discipline mentale, mais toute image que je vois, maintenant, j'ai un signal automatique dans mon cerveau, cette image est fausse. Voilà. Encore faudrait-il que l'internaute moyen comprenne ce que signifie le logo. Oui et non, Yves Castel, parce qu'il y a quand même, n'oubliez pas que les réseaux sociaux peuvent aussi avoir des mécanismes vertueux de fact-checking. Beaucoup d'images qui sont publiées actuellement sur les réseaux sociaux sont contredites par d'autres qui, au bout d'un... En fait, là, je vais être étonnamment optimiste. Si vous suivez bien les parcours... des fake news, la plupart des fake news sont débunkées au bout d'un moment. Le seul problème, c'est qu'il faut aller fouiller dans les commentaires pour trouver le débunkage. Et que les fake news continuent à s'empiler parce que c'est elles qui sont relayées. Mais les fake news, au bout d'un moment, si vous prenez la peine de lire les commentaires, il y a une majorité qui va les débunker au bout d'un moment. Et c'est là où je suis peut-être naïf et candide et trop over-optimiste, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, la loi des grands nombres fait ressortir l'intelligence. Pas toujours, c'est pas parfait, mais globalement... Et pour moi, un des exemples, c'est effectivement Wikipédia, qui est perfectible, où il y a encore des trucs qui ne vont pas. Mais quand même, le collectif et la loi des grands nombres a quand même tendance à faire émerger la vérité. Vous voyez, c'est un peu comme les faux avis sur les produits. Alors, j'applique un scepticisme absolu aujourd'hui sur les avis des produits, parce qu'on sait qu'il y a des usines entières qui fabriquent des faux avis. Mais quand même, au bout d'un moment, quand vraiment il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avis et qu'on prend le temps de décrypter et on arrive quand même au bout d'un moment à sentir quelques avis authentiques, en gros, je ne vais absolument pas croire les avis quand il y a une cinquantaine d'avis. Quand je vois 5000 avis sur un truc... Je commence à lire les avis et j'essaie de trouver des avis qui ne ressemblent pas à des avis automatiques. Voilà. Quand une fake news est avérée, n'est-ce pas le rôle de la modération de la supprimer ? Bah si, clin clin. Et c'est justement tout le problème entre l'Europe et Elon Musk et Meta. C'est que les plateformes ne font pas le boulot d'éliminer les fake news. Donc, bon, c'est honorable, et moi, je vous le redis, même dans nous, aucune de nos images, à part une sur YouTube, celle de la visière Apple, aucune de nos vignettes n'est à 100%, et encore, celle de la visière Apple, j'ai ajouté moi-même le logo Apple sur la visière, donc. Il y a eu un peu de retravail manuel, mais aucune de nos vignettes n'est 100% générée par l'IA. Mais toutes nos vignettes, quasiment aujourd'hui, contiennent des bouts d'IA générative. Elles ne sont pas 100% authentiquement des photos, mais elles ne l'ont jamais été. Il y a toujours un travail d'illustration, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, s'il y avait à disposition un logo, un label CR, j'ai aucun problème pour la poser sur nos vignettes YouTube, quoi. Il y a surtout que les avis positifs sont souvent fake, alors que les avis négatifs, ben, ils sont quasi toujours authentiques. C'est très compliqué, les opinions sur les produits, parce que le problème, c'est que les personnes mécontentes vont être toujours beaucoup plus vocales que les personnes... En fait, il y a très peu de gens qui vont dire qu'ils sont contents d'un produit. Quasiment jamais. Quand vous êtes content d'un produit, vous l'utilisez, vous allez jamais dire que vous êtes content d'un produit. En fait, c'est pour ça que nous, en tant que créateurs de contenu dans nos stages commando, on nous apprend à décrypter que les mécontents sont toujours 100 fois plus vocales que les gens contents. Mais qu'il ne faut jamais oublier, par exemple, dans les commentaires d'une vidéo, que les gens contents de la vidéo ne vont jamais la commenter. Voilà. Parce que personne ne fait l'effort de venir dire qu'il est content. Jamais. Il y a très peu de remerciements. Par contre, quand quelque chose va pas, alors là, il y a du monde. Ouais. Donc, c'est là où nous, on apprend à écouter quand même quand les gens ne sont pas mécontents, mais pas non plus être... parce que parfois, on a l'impression qu'on a vraiment fait une erreur parce qu'on va avoir 50 commentaires négatifs sur une vidéo qui a fait 100 000 vues. Voilà. Non, le pouce, plus personne ne le fait. Hein. D'ailleurs, moi, je regarde même plus les pouces. En fait, dans le travail de créateur de contenu, on doit énormément écouter la majorité silencieuse. Et en fait, la majorité silencieuse ne s'exprime que d'une seule façon. Elle regarde ou elle ne regarde pas. Voilà. Notre dernière vidéo sur les mails polluent-ils, bon, on s'y attendait en vrai, mais très peu de vues. On savait qu'elle allait faire très peu de vues. Bon, en plus, elle sort à un moment où c'est peut-être pas la préoccupation majeure des gens en ce moment, qui vont plutôt chercher à se divertir plutôt que de regarder des contenus qui parlent de choses anxiogènes. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on retient quand même le signal. Nous, on est obligé de prendre en compte le fait que quand on parle d'Android, quand on parle de vie privée, quand on parle de sécurité informatique, quand on parle d'écologie, très peu de gens regardent. C'est un fait, ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos sur le sujet, mais on ne peut pas en faire trop parce que sinon la chaîne, elle disparaît. Voilà. Pour nous aider sur YouTube, le mieux, c'est de mettre un commentaire juste où vous dites merci. C'est mieux qu'un thumbs up. Juste merci. Ne mettez pas, parce que il y en a beaucoup qui vont mettre un commentaire en écrivant pour faire croire que c'est un commentaire automatique. Commentaire pour soutenir la chaîne. Non, mettez juste merci. C'est encore plus court à écrire. Juste merci pour la vidéo. Vous avez passé du temps à le faire, je vous remercie. Nous, on vous remercie de les regarder. Pensez juste à remercier le créateur de contenu qui a pris du temps pour la faire. C'est tout. Comme vous ne la payez pas de regarder la vidéo, le seul effort que vous avez à faire, c'est juste d'écrire merci. Ça fait fake que des merci. On s'en fout, je le prends ce fake-là. Je le prends. Mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, quand ils regardent nos vidéos, ils vont dire « J'ai beaucoup aimé ta vidéo, mais j'aime pas le produit, donc thumbs down. » Ben non, non, c'est pas moi qui ai fabriqué l'iPhone 15. Si tu l'aimes pas et que t'as aimé la vidéo, dis que t'as aimé la vidéo au moins. On ne paye pas la vidéo, mais on vous paye en la regardant. Non, alors pour être plus précis, Mike, je comprends ce que tu veux dire. On vous paye en la regardant, mais est-ce que tu as regardé la pub alors? Ou est-ce que tu as cliqué sur le lien du sponsor? Parce que moi, oh, je te le dis droit dans les yeux, si tu as regardé la vidéo en zappant la pub et sans cliquer sur le lien de nos partenaires ou du sponsor, tu nous as rien, t'as rien payé du tout. Enfin, il n'y a aucun argent qui nous revient, en fait. Donc, tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. Je comprends ton raisonnement. Et je sais que certains commencent à dire, ouais, mais finalement, on vous paye bien en regardant vos trucs. Attention, il y a des nuances à apporter à ça. Ah oui, juste un clic sur les liens, bien sûr. Bah, Sarah, en fait, on parlera de notre sponsor tout à l'heure, mais si vous cliquez sur le lien et que vous allez lire un petit peu, par exemple, notre sponsor, nous, bah, les liens sont évidemment, on voit combien de personnes ont cliqué sur le lien qu'on a mis. Donc, ça nous permet derrière de dire, bah, vous voyez, on a quand même généré du trafic sur votre site. Et sur ce trafic, après, il y en a qui ont pris le produit, mais rien que de générer de l'intérêt sur le trafic, ça vaut de l'argent. Voilà. Bah, en fait, si vous zappez tout de suite après les 5 secondes pour la pub, pour les pubs qu'on peut zapper, ça ne nous rapporte rien du tout. En fait, l'annonceur n'a même pas à payer YouTube si la publicité est... Alors, vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier, mais il faut la regarder un certain nombre de secondes pour qu'elle soit validée comme vue publicitaire. Non, simuler des millions de clics, non, alors ça, surtout pas. Anthony, je le dis, je sais que tu le dis pas sérieusement, mais sachez bien que si vous pensez qu'on peut créer des bots qui vont artificiellement aider un créateur, vous risquez de tuer le créateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de mécanismes anti-bots. Il y a cette espèce de rumeur là sur YouTube que les créateurs ont des bots de commentaires pour faire monter leurs vidéos. Je connais pas un seul créateur un peu intelligent qui ferait ça. Parce que genre, on se fait lever. Et même si c'est pas nous qui l'avons fait, c'est ça le danger. Si des fans de la chaîne se mettent à créer des trucs pour stimuler la chaîne et que c'est des bots, notre chaîne risque d'être fermée en fait. Non, surtout faites pas ça. C'est comme à une époque, certains bien intentionnés, achetaient des vues sur Instagram pour leur créateur favori. C'est hyper dangereux. Vous faites courir d'énormes risques à votre créateur favori, quoi. Donc ne faites jamais ça. Bon, on est parti très loin sur ce sujet, mais c'est hein, vous me connaissez en même temps. Et justement, j'ai un peu dérapé sur le dernier sujet du jour, la répression de YouTube contre les ad bloqueurs à l'arme les internautes. Non, mais en vrai, on est en plein de parce que je pense qu'on va pouvoir continuer à parler de ça. De plus en plus d'internautes se plaignent de ne plus pouvoir lancer des vidéos YouTube s'ils ont un ad bloqueur. Déjà en début d'année, des témoignages signalaient une répression accrue contre les adblockers. Les messages qui s'affichent sont de deux ordres. Le premier prévient que les bloqueurs de publicité ne respectent pas les conditions d'utilisation de YouTube. Le second signale que le lecteur vidéo sera bloqué après deux vidéos, autorisant encore deux visionnages avec un navigateur utilisant de la publicité avant de tomber sur le premier écran. Je vous décrypterai parce que la phrase n'est pas très claire. On ignore si c'est... Alors, c'est un test, hein, ça s'applique pas chez tout le monde pour l'instant. On ignore si le test découvert au printemps est en phase de généralisation, comme la multiplication des signalements semble le suggérer. On sait également pas précisément si tous les navigateurs et tous les adblockers sont concernés. Selon YouTube, la publicité représente sa principale source de revenus. Donc YouTube, pas forcément les créateurs. Les créateurs, ce type de publicité, c'est pas notre principale source de revenus. Mais selon YouTube, la publicité représente sa principale source de revenus. Le succès des adblockers constitue donc un problème direct pour son modèle économique. Selon une estimation faite en 2020, 40% des adultes aux États-Unis utilisent un adblocker, donc un de ces logiciels sur PC ou sur smartphone. Alors, les adblockers sur smartphone, bon... déjà plus rare. Cela peut donc représenter un énorme manque à gagner pour la plateforme. Il est estimé, selon un rapport de Google sur la santé de la plateforme, que plus de 222 millions d'Américains ont visité YouTube au troisième trimestre 2023. Au sein de cette population, américaine âgée de 15 ans ou plus, cela représente 84% de la population. Donc, en fait, ce que ça dit. Alors, une chose, parce que on a déjà labouré ce sujet dans tous les sens, et je sais que là, il y en a qui soupirent en se disant, il va encore nous dire les mêmes choses. Bah oui, parce que les faits n'ont pas changé. Il y a une chose qu'il faut que vous intégriez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est même pas le sujet. Je vais vous donner des éléments qui sont des faits. Le fait que vous regardiez une vidéo sur YouTube coûte de l'argent à YouTube. Bande passante essentiellement. L'hébergement, c'est peanuts. Les salaires des gens chez YouTube, c'est peanuts. Ce qui leur coûte le plus cher, c'est la bande passante de diffusion. Donc, en gros, YouTube doit avancer de l'argent pour que vous puissiez regarder une vue. Et comme je l'ai dit à quelqu'un tout à l'heure sur l'autre sujet, le fait juste de regarder une vidéo sur YouTube ne leur fait pas gagner de l'argent. Ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est que vous regardiez les pubs. Je sais que pour certains, c'est pas forcément évident, hein. Donc, je sais que pour d'autres, c'est complètement normal. Enfin, ils ont même du mal à comprendre que certains aient du mal à comprendre ça. Mais il y a plein de gens qui ont du mal à comprendre ça. Une vue sur YouTube ne rapporte rien à YouTube et même lui coûte de l'argent. OK ? C'est les vues publicitaires qui vont rapporter de l'argent à YouTube, qui va lui permettre d'amortir déjà le coût de la diffusion. OK ? Ça, c'est hyper important de le comprendre. Le truc, c'est que si vous regardez d'autres articles, et allez, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo que j'avais faite. YouTube, c'est pas gratuit. J'avais fait une vidéo, YouTube, c'est pas gratuit. Pour ceux qui sont pas au courant, allez voir cette vidéo avant tout, où j'explique les coûts de YouTube, les coûts de diffusion de YouTube. YouTube est pas une boîte ultra, ultra, ultra profitable. Elle est profitable. Elle est profitable. Elle est pas déficitaire comme les Twitch, par exemple. Twitch perd de l'argent tous les ans. Twitch, pour l'instant, n'a même pas atteint un seuil de rentabilité. YouTube l'a atteint en 2015, donc relativement récemment, un peu moins que 10 ans. Mais le niveau de rentabilité est relativement faible, et d'ailleurs, un signal pour décrypter l'article que je viens de vous faire, c'est que les revenus publicitaires de YouTube ont baissé de 2,5%, je crois, l'année dernière, alors que les frais de diffusion des vidéos YouTube ont augmenté à cause de l'augmentation des frais énergétiques. Donc, mettez-vous 2 secondes dans la peau d'un expert comptable, les coûts augmentent, les rentrées diminuent. 40% des gens utilisent un adblocker, bah les gars, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Voilà. Je dis pas que je suis en train de cautionner. Vous connaissez, j'ai une position très nuancée sur les adblockers. Moi, j'ai même envie de dire d'une manière assez lapidaire, utilisez tous les adblockers que vous voulez, mais en étant conscient de ce que vous faites. Voilà. Et de croire, parce qu'il y en a beaucoup, c'est j'utilise un adblocker, mais d'une manière un peu magique, le créateur de contenu ne va pas subir le fait que j'utilise un adblocker. Je vous dis ça, c'est ne pas assumer la responsabilité que vous avez d'utiliser un adblocker. Voilà. Tout ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il dit, les milliards de disques ? Comment vas-tu ? Ah ben, je vais pas mentir, c'est une super chose que fait YouTube. Les gens vont commencer à comprendre que c'est pas gratuit. Ouais, je pense aussi que la pédagogie est très importante. Et vous voyez, je prends du temps et je sais que je rabâche. Je sais, hein, je suis vraiment désolé pour ceux d'entre vous qui entendent ce discours depuis 5-6 ans. Internet n'est pas gratuit. Internet ne produit pas que des milliardaires. Ça, on vous a brainwashé là-dessus. Et c'est faux. Et ça a engendré les problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui. Voilà. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est vrai. Ce n'est qu'une partie de la vérité, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'effectivement, certains peuvent targuer que même si vous ne regardez pas la publicité, vous avez quand même le profilage par vos données. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Parce que justement, des mesures ont été prises par les États pour empêcher la copie de certaines données à des fins publicitaires. Je suis absolument pas en train de dire qu'il faut plaindre ces entreprises. Genre, oh là là, elles gagnent pas d'argent, regardez les pubs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, et je vous dis, utilisez les adblockers si vous voulez, mais comprenez bien que vous mettez un bâton dans un rouage économique qui, éventuellement, peut détruire des créateurs de contenu, voire détruire des plateformes qui n'atteindront plus des seuils de rentabilité. Et j'ajoute une nuance à ce que je viens de dire, parce que c'est quand même dangereux. Utilisez tous les adblockers que vous voulez, mais si jamais vous payez un adblocker, là, par contre, vous êtes mon ennemi. Parce que non seulement vous privez des créateurs de contenu et des plateformes de l'argent qui devrait leur revenir, mais en plus, vous donnez de l'argent à quelqu'un qui détourne, sans avoir créé le contenu, qui détourne les flux. Donc, au même titre qu'au Moyen-Âge, un mec avec une massue au milieu d'un pont te dirait « donne-moi tes deux sesterces parce que sinon, tu n'accèdes pas au marché derrière », bah, c'est le même type de voleur. Les adblockers payants, si vous donnez de l'argent à ces systèmes-là, là, par contre, je ne vous aime pas du tout. Voilà. Oui, il y a des gens qui payent pour des adblockers, ouais. Sachez que les adblockers... Je sais que personne n'ose vraiment faire des articles de fond sur les adblockers parce que on se ferait mitrailler par les adblockers qui sont très puissants, qui sont des entreprises puissantes aujourd'hui dans les médias. Ça, c'est un truc, moi, je le dis parce que, ouais, on pourrait me faire chier quand même, mais il faut savoir qu'il y a un peu une omerta sur les adblockers parce que, bah, les adblockers ont des pouvoirs de vie et de mort sur des sites entiers. Bah, vous connaissez le système de whitelisting, quoi. En fait, les adblockers bloquent le pont, comme je vous ai dit, le mec avec une massue au Moyen-Âge. Mais ils vont dire, écoute, si tu nous donnes un petit peu d'argent, ben, on laisse passer tes pubs. D'où c'est un business cool. Oui, les pubs, c'est chiant. Ça a toujours été chiant, les pubs. À la télé, les pubs, c'est chiant. Si une pub n'est pas chiante, c'est pas une bonne pub, déjà. Voilà. Les pubs, c'est chiant. Moi, je dis pas le contraire. Mais le raisonnement, les pubs, c'est chiant, donc j'ai droit à un adblocker, est intellectuellement faux. Voilà. C'est un sophisme. C'est une facilité, vous dites peut-être ça pour vous rassurer et vous n'avez pas à tort hein, de le faire, mais ce raisonnement n'est pas valide. Genre, il y a trop de pubs, les pubs c'est chiant, donc j'ai le droit de mettre un adblocker. C'est pas un raisonnement valide intellectuellement. Ah, je peux pas vous dire autre chose. Hein. J'aimerais plus vous rassurer, vous dire vous êtes inoffensif, vous avez raison, ça ne produit aucune conséquence et les créateurs trouvent de l'argent magiquement et les plateformes diffusent avec de l'argent magique et de la poudre à perlimpinpin. J'aimerais pouvoir vous dire ça, mais c'est pas vrai. Vous pouvez vous dire que c'est vrai, mais ça ne va pas rendre le truc vrai. Et Patreon dans tout ça, Jérôme, tu vas rire, je me chauffe en ce moment. Le crowdfunding, c'est très compliqué. Le crowdfunding, on va dire qu'il y a 99% des cas, le crowdfunding ne marche pas. En fait, je vais même vous dire, nous, et on remercie tous les contributeurs, et j'ai oublié de les remercier depuis le début de l'émission, mais on remercie tous les contributeurs. En fait, une chaîne reposant uniquement sur le crowdfunding est possible. Bah déjà, si tu n'embauches personne, tu fais bosser aucun freelance, je veux dire en termes de revenus. Et si tu orientes vraiment ta chaîne, en gros, moi, c'est aujourd'hui, tout était à refaire. Je pense qu'on pourrait tenir une chaîne YouTube où il n'y aurait que moi qui me paierait. On pourrait tenir une chaîne YouTube si je faisais un truc genre le papy mécontent de la tech et que toutes les vidéos soient que des vidéos négatives, que je refuse le moindre smartphone prêté par les marques, que je me mette en opposition totale avec les marques, que je fasse en fait une chaîne militante. Une chaîne militante, il y en a aux États-Unis, hein, sur les jeux vidéo et tout ça, qui vont être dans la critique et dans la pureté de l'opinion. Genre, je suis incorruptible. Il n'y a que grâce à vos dons que je peux être comme ça. Ça irait, mais ça dégagerait pas plus d'argent que pour une personne. Voilà. Alors, concept excellent, si je le ferais pas, c'est que ça peut mener aussi à une malhonnêteté inversée. Quelqu'un qui est que dans la critique systématique pour se faire de l'argent et déclencher des dons, dans quelle mesure il va pas être influencé à être toujours négatif? On peut se poser ce genre de questions aussi. Hein. Salut Pépé. Donc, on l'a vu hein, d'ailleurs aux États-Unis, hein, des chaînes qui sont... moi, je suivais Angry Photograph. Des chaînes qui passent leur temps à critiquer tout parce que c'est leur business model, vont pas être objectives non plus, en fait. Donc voilà. C'est compliqué. Le crowdfunding, c'est compliqué. Je vais en profiter quand même, puisqu'on parle de crowdfunding, en remercier tous les contributeurs depuis ce matin. Chagouli, merci pour tes 17e mois d'abonnement. Ragnar Legrand, merci pour ton Prime. Steven RSL, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Caribou, mais pas comme notre Caribou à nous, pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Nicorforsberg 21 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Bœuf de Malak pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Zirko 33 pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Jérôme Quest pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Benzine Vidéas pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Sultan 97 400 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Freddy San pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Frouk 06 pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. On va y arriver. Merci Sandokan pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci à toi Sandokan. Merci Alpine Fraîche pour ton 31e mois d'abonnement. Merci. Ah non, il y en a encore. Merci Parose pour ton 8e mois d'abonnement. Non mais je me plains pas, au contraire. Je pourrais lire des listes comme ça toute la journée. Allez-y, sans aucun problème. Je peux même vous faire un live de 3 heures si j'ai suffisamment de merci à faire aux contributeurs. Aucun problème. Merci Parose pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Tamor pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Langelot pour ton 28e mois d'abonnement. Merci Denfer 1966 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Astragis pour ton 22e mois d'abonnement. Et ça, c'était hier, Astragis, mais merci quand même. Merci Aleds 60 pour ton Prime, merci beaucoup les contributeurs. Mais juste pour vous dire, les contributeurs qu'on remercie énormément, nous les contributeurs nous servent à une chose, et je vais vous dire la vérité. Est-ce que j'ai le temps? J'ai 2 minutes pour vous dire la vérité sur tout. Non, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, les contributions ne payent absolument plus les salaires chez Naotech. Ça a été le cas à une époque. En tout cas, ils ont toujours payé une partie des salaires. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout. les contributions nous permettent quand même de dire merde à certains annonceurs, à certains sponsors. Ouais, j'oublie pas le sponsor, je le ferai justement après. Il y a certains sponsors qu'on peut se permettre de refuser grâce à vous. En fait, la part de vos contributions dans notre chiffre d'affaires nécessaire pour que la boîte tourne nous permet d'avoir une petite liberté éditoriale par rapport aux sponsors. Pour vous la faire simple, ça nous permet de dire non une fois par mois à un sponsor. Voilà. Et c'est très précieux pour nous. C'est très précieux, mais, et c'est là où je suis complètement transparent, autant en 2017, j'avais pas assez de grands espoirs dans le crowdfunding, et je me disais que peut-être j'arriverais à faire une chaîne basée sur le crowdfunding, sur les contributions, ce rêve bleu n'existe plus du tout. Je n'y crois plus du tout. On n'y arriverait jamais, jamais, jamais. Ou alors, il faudrait faire une chaîne complètement différente, que je vire tout le monde aussi, que je sois tout seul. Le problème, c'est quand tu as besoin de 400 000 pour tenir ton budget, c'est pas possible. Bah, après, là-dessus, moi, j'étais transparent dans les chiffres, mais aujourd'hui, une chaîne comme Nowtech a besoin, au minima, pour pas perdre de l'argent, entre 10 et 15 K par mois pour que la boîte tourne. Et je peux vous garantir, je vais même être assez provoque, personne n'est assez bien payé chez Nowtech. C'est d'ailleurs un de mes buts, c'est de mieux payer les gens qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, dont moi, personne n'est assez payé chez Nowtech. Je parle de chiffre d'affaires. Hein. On ne fait pas 10 à 15 000 euros de bénéfices par mois, les gars. Hein. Sinon, je vous tiendrai... Enfin, je ne sais pas, il y aurait peut-être un yacht et la mer bleue derrière moi. Quoi. Non, peut-être pas avec 10 à 15 de bénéfices par mois, mais... Non, non. Et je peux vous dire, c'est vraiment au bas mot, hein. C'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire pour pas qu'on se casse la gueule, par mois. Non, c'est pas ouf, hein, ceux qui ont des entreprises et qui savent comment ça marche. C'est pas, on a diminué énormément de frais de fonctionnement. Voilà. Bref. Sur ce, bah justement, on va terminer avec notre merveilleux sponsor. Mais quel enchaînement, me direz-vous ? Jérôme, c'est incroyable. Nous allons parler, et bien sûr, je vais afficher... Merde, il est où le... Ah, on n'a plus le bouton. Avant, on avait un bouton. Alors, excusez-moi, il faut juste que je trouve l'affichage. Oh, merde, il est où du partenaire ? Collaboration commerciale. Ah, voilà, il s'affiche. Vous le voyez là, collaboration. C'est bon, je suis dans les clous. C'est bon, on a affiché collaboration commerciale. Hein, on va vous parler de notre merveilleux sponsor qui est bien évidemment Axonaut. Il faut juste que je trouve le texte. Qui va être où ? Il est là. C'est Axonaut. Et c'est qui ? En fait, c'est qui Axonaut ? Bah, en fait, pour vous parler d'Axonaut, je vais un petit peu m'adresser à ceux d'entre vous, justement, qui sont des indépendants, des entrepreneurs, des freelances, des dirigeants de PME ou de toutes petites entreprises, les TPE. Vous en avez marre de faire votre gestion et de votre compta sur Excel, vos factures sur Google Docs. Tout ça, c'est un vrai bazar. Il y en a dans tous les sens. Vous rêvez de tout pouvoir faire au même endroit. Eh bien, Axonaut, c'est fait pour vous. Axonaut va vous permettre de tout gérer au même endroit, de la facture à la comptabilité, en passant par la gestion de projet et des ressources humaines. Ça qu'il faut bien comprendre avec Axonaut, c'est que c'est ultra complet. Vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez ici, devis, factures, gestion commerciale, CRM, trésorerie, comptabilité, gestion de projet, marketing, gestion des stocks, ticketing. Par exemple, je vais donner un exemple parce que certains ont dit « Oui, c'est un peu cher pour un logiciel de facture. » Oui, mais si tu additionnes le logiciel de facture, et par exemple, nous, à une époque, on a fait du CRM, un logiciel de CRM un peu fiable, ça coûte de l'argent aussi. Si derrière, tu veux aussi un logiciel de gestion de projet, ça va te rajouter aussi en abonnement. Donc là, vous avez un petit peu tout. Évidemment, Axonote a été conçu pour être facile à prendre en main et flexible. Vous pourrez adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise. Axonote utilise des normes de sécurité de très haut niveau pour protéger vos données et ces données seront disponibles sur le cloud, vous permettant d'y accéder par votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. En résumé, Axonote est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Bien sûr, ils ont un service technique à votre écoute. Évitez de perdre du temps sur des problèmes techniques. Démarrez votre mois gratuit sans plus attendre si vous voulez. Bien sûr, ce genre de logiciel, il faut le tester. Ah, je vous invite à vraiment le tester. Ne me croyez pas. Soyez sceptiques et allez le tester. Et pour ceux qui demandaient, en allant le tester, vous nous aidez énormément. Parce que Axonote va voir que plein de gens de la communauté, parce qu'on vous en a parlé, vont tester leur logiciel de gestion d'entreprise. Après, que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas, c'est autre chose. Ça, et à la limite, c'est plus la responsabilité d'Axonote de faire un bon produit. Ce n'est pas de la responsabilité de Nowtech. Nous, on est là pour vous inviter à aller voir ce que fait Axonote, les découvrir. Je déborde un peu, mais comme on en a parlé aujourd'hui, que oui, quand vous cliquez sur nos liens, vous nous aidez énormément. Et pas besoin d'acheter le produit. Donc, vous n'avez même pas besoin justement, avec et ça c'est vraiment bien chez Axonote, vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bleue pour tester. Parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont conditionnés au fait d'une tacite reconduction. Là, vous pouvez tester sans mettre votre carte bleue d'entreprise. Et si Axonote vous convient, vous aurez jusqu'à 50% de réduction si vous utilisez bien le lien qu'on vous donne. Alors, pour avoir le lien, vous faites point d'exclamation Axonote, A-X-O-N-A-U-T, pour avoir ce lien. Et si vous nous écoutez en différé, venez sur le Discord pour demander le bon lien. Voilà. En tout cas, nous, on remercie beaucoup Axonote de nous permettre de vous proposer ce live. Et tranquillement, je suis même un petit peu en retard, j'allais vous couper genre oh, « Voilà, c'est fini, je vous dis rien. » On n'est pas sur YouTube, on a le droit de se dire au revoir quand même. Non, parce que sur YouTube, on n'a plus le droit maintenant de faire des conclusions dans les vidéos. Là, je vous ai fait une fin à la YouTube, genre. Coupé dans la phrase, bah, la vidéo s'arrête. Allez-vous faire. Pourquoi les YouTubeurs maintenant coupent leurs vidéos à la fin? C'est parce que c'est hyper important dans le watch time. C'est pour ça que de plus en plus de vidéos YouTube, les interruptions sont un peu brutales. Voilà. Allez, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup. Alors, demain, on présente le mug avec Guillaume. On va d'ailleurs vous parler de trucs sur le futur de la chaîne. Donc, si ça vous intéresse, venez demain nous écouter, demain matin. Que vous dire d'autre? Il y a une vidéo qui est en préparation, qui au mieux arrivera dimanche, sinon dans pas longtemps. Je vous invite, si vous l'avez raté, à regarder notre dernière vidéo, les mails polluent-ils ? Alors, je crois qu'on a changé le titre hier, donc c'est plus exactement ça le titre, mais c'est quand même l'idée. Les mails polluent-ils vraiment ? Je crois qu'on a fait un nouveau titre, c'est le mensonge. Le mensonge des mails qui polluent ou quelque chose comme ça, comme titre. On vous a menti sur la pollution des mails. C'est le nouveau titre de la vidéo. Et ouais, on est obligé de travailler des titres pour voir ce qui trigger le plus les gens. On vous a menti, c'est mieux que le mensonge. Donc demain, les lives, c'est 8h, sauf le lundi. Mais sinon, c'est de 8h à 9h30 à peu près. Sachant que là, je suis très en retard. Que vous dire d'autre? C'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. Ah oui, si, ce soir, il y a le jeudi contributeur, justement. Tous ceux qui contribuent, que ça soit avec des subs sur le Patreon et tout, vous avez le droit à un live privé, rien que vous et moi, ensemble, dans un tub. Non, il n'y a pas de tub. Je sais, ça, il y en a certains qui étaient là. Ah ouais, mais moi, j'aurais contribué s'il y avait un tub. Non, je te garantis que c'est pas ce que tu veux. Mais c'est quand même entre nous ce soir. Si vous savez pas comment obtenir le lien du live privé, rendez-vous sur Discord. Des gens vous accompagneront. Si vous êtes contributeur sur Patreon, sur YouTube Member et que vous avez fait, ou que vous avez fait des subs ou des primes sur le live, vous avez le droit au lien du live privé. Donc rejoignez-nous ce soir 18h. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague, Flanflon ? J'ai pas vu. Oh, puis ça remonte trop haut, là. J'ai pas suivi. Je ne peux pas tout suivre. Je ne peux pas tout suivre. Ah, mais merde, maintenant, j'ai envie de voir. T'as hurlé. C'était quoi, la blague ? Je ne coupe pas tant que j'ai pas trouvé la blague de Flanflon. Je remonte. Quoi, j'ai dit une connerie ? C'est très possible, hein. C'est très possible. Ah, je vois plein de questions intéressantes, j'ai pas pu y répondre. Venez les reposer lundi, hein, n'hésitez pas. Hein. Le lundi à partir de 17h, c'est vraiment le cornfac. Venez poser des questions. Bon, bah, je retrouve pas ta blague, Flonflon. Je retrouve pas. Ah oui, le tub. C'est ça, le tub. Et ouais, YouTube. YouTube, ah putain, là, je pourrais faire du crowdfunding. Hein. Peut-être pas avec moi comme modèle. Mais bref, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je m'étire un peu et je vais faire aussi un raid. Et pourquoi je prends un accent du Sud pour ce genre de phrase ? Je n'ai aucune idée. Accent du Sud, bien raté aussi. Hein. Chez qui on va faire un raid ? Allez, ici Japon Corp, hein, leur projet est formidable, de musée du jeu vidéo, on va raider chez ici Japon Corp. Très bonne journée à tous. Ciao, ciao !